Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Julien Lemoff.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du festival Paris Baroque.
Oui.
Alors un nouveau festival, comment ça naît ?
Ça naît avec un contexte d'abord.
Une envie personnelle, j'imagine, à la base, peut-être.
Oui, forcément, une envie personnelle aussi. Et un contexte qui nous a amené à rencontrer plusieurs artistes, notamment des artistes qui vivent à Paris, qui travaillent à Paris. Qui nous font part de leur désarroi face à la situation actuelle où finalement, bien qu'étant à Paris, ils n'ont pas tellement l'occasion d'y jouer. Et donc est venue l'idée de créer un nouvel événement qui permette à ces artistes parisiens, notamment, soit ils vivent à Paris, ils travaillent comme professeurs dans les conservatoires à Paris ou en Île-de-France, un nouvel événement qui leur permette de plus jouer et de se faire entendre et de pouvoir diffuser leur travail artistique non seulement dans les festivals qui existent ailleurs en France, ailleurs en Europe, ou parfois même encore beaucoup plus loin, mais aussi dans la capitale française, ce qui est quand même important.
Donc cette occasion, ils vont la voir entre le 23 novembre et le 9 décembre, dans plusieurs lieux, qui en plus ne sont pas des lieux trop confidentiels. Vous avez vu tout de suite grand et beau, on pourrait dire, avec des lieux assez symboliques, et de la capitale, et même de la musique qui est au cœur de ce festival. Alors même, petite question avant, peut-être d'ordre personnel, comment vous arrivez, vous, dans cette histoire, pour avoir rencontré, comment on devient directeur de festival, comment en 2012, ou sur un genre musical qui, comme vous venez de le dire, pour ses acteurs principaux, n'est peut-être pas évident, notamment en ce qui concerne la musique vivante, on arrive à monter un festival, même de toute façon, simplement financièrement et en termes d'organisation.
Ça fait partie effectivement des données de base d'un projet comme celui-là, à partir du moment où aujourd'hui, pour un projet qui naît de cette façon, c'est difficile d'avoir par exemple des subventions. Aujourd'hui, on n'est pas subventionné par les collectivités publiques, même si on est soutenu de façon plus informelle. Donc derrière, effectivement, et c'est le contexte qui le dicte, c'est ce contexte de crise, ce contexte où il n'y a pas de disponibilité large de fonds comme on pouvait en trouver il y a 20 ou 30 ans, ce contexte-là qui dicte d'une certaine façon la forme que prend ce festival, c'est-à-dire justement tout de suite choisir des artistes qui soient reconnus, des lieux qui soient identifiables par le public, afin également d'assurer au projet une réussite auprès du public. Aujourd'hui, monter un projet, un festival, en se disant qu'on va, au bout de 5 ou 10 ans, finir par s'installer, ça n'est pas raisonnable parce que ça n'est pas viable. Aujourd'hui, on a besoin qu'un projet comme celui-là, surtout à Paris, surtout avec des artistes aussi talentueux que ceux qui peuvent participer au festival, on a besoin qu'un projet comme ça, effectivement, voit tout de suite, effectivement, comme vous le dites, grand et dans des beaux lieux et avec des programmes qui puissent attirer un public large.
Surtout qu'en plus, effectivement, côté casting, des gens plutôt déjà, certains ont déjà une bonne carrière devant eux, sont déjà des noms dans le milieu, des artistes plus jeunes, je pense par exemple l'ensemble Les Ombres qui sort son deuxième album là, mais il y a également Skip Sampé, Béatrice Martin, Kinson Smith, etc. Tout le monde pourra consulter l'intégralité du programme, soit sur Cobuz, soit sur le site du festival. En termes de politique éditoriale, justement, vous vouliez mêler un petit peu aussi bien les générations que... Comment ça s'est passé dès le début de votre feuille de route? À quoi elle ressemblait?
L'idée, à la base, effectivement, c'est d'essayer de donner un panel assez large, à la fois du répertoire et de tout ce milieu artistique des baroqueux, qui est un milieu indépendant et donc avec là aussi différentes tendances. Il y en a qui sont plus spécialisés dans la musique allemande, la musique française, le 17e, 18e. On a essayé, nous, de convaincre l'ensemble de ces musiciens qu'il y avait quelque chose à faire sur ce domaine-là et de les amener avec eux leur compétences, je dirais, personnelles, c'est-à-dire le répertoire sur lequel ils avaient envie de travailler. On a essayé de couvrir au mieux le thème de l'Europe baroque, c'est-à-dire le Festival Paris Baroque n'a pas déterminé de thème. On verra si dans les années qui viennent on le fera. Mais
vous ne vouliez pas faire comme La Folle Journée qui décide de faire une édition sur la Russie, une édition sur...
On s'est dit qu'en tout cas, si on voulait justement que ce festival soit pour le public le plus large possible et pour des artistes qui soient des artistes vraiment impliqués, on n'allait pas restreindre le champ, on allait au contraire essayer de l'ouvrir. Et on l'ouvre effectivement en proposant aussi bien de la musique allemande, italienne, du 17e, du 18e, musique française évidemment parce qu'on est à Paris, mais on a essayé de trouver un équilibre malgré tout autour de toutes les propositions en fait qui nous ont paru intéressantes et qui nous ont paru motivées par une volonté de certains artistes de participer au projet.
Les programmes ont été choisis et conçus avec les artistes ?
On a prêté une attention très particulière, effectivement, au travail des artistes et des ensembles eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est la limite parfois des restrictions autour d'un thème sur un festival, c'est que finalement, on commande à un artiste ou à un ensemble un programme, alors que parfois, ce n'est pas l'étape dans laquelle il est, cet ensemble ou cet artiste, au moment donné. On a essayé justement de voir ce que les artistes avaient envie de proposer à tel moment, dans quoi ils étaient dans leur démarche artistique, à quelle étape de leur existence et de leur carrière. Et voilà, c'est comme ça que ces idées sont venues autour des propositions, vraiment en dialogue avec les artistes.
Du bist mein Herr, sei getreu.
Donc donner de la, des lieux, la voix à ce mouvement baroque, mais j'imagine aussi peut-être le faire connaître, pour ceux qui ne le connaissent soit peu, soit mal.
Bien sûr, c'est aussi un objectif du festival que de constituer une vitrine pour ce milieu, qui est, comme je le disais, un milieu qui est extrêmement vivant, qui maintenant, on en est à la troisième, quatrième génération de baroqueux depuis les pionniers. Donc on est aussi à un moment charnière, c'est-à-dire un moment où on a besoin pour ce milieu de, voilà, de garder certaines valeurs, certains principes autour de cette indépendance. Mais cette indépendance, dans le contexte actuel, c'est aussi une fragilité, parce que justement, on est en dialogue en permanence avec des artistes ou avec des ensembles qui voient leurs moyens financiers réduits, leurs subventions se réduire. Et c'est ça aussi que ce festival tente de créer. C'est une vitrine, mais aussi une vitrine pour défendre un milieu qui, aujourd'hui, est un peu à la peine parfois.
Donc des concerts principalement, évidemment, mais aussi également des conférences, projections, etc.
C'est justement toujours dans l'idée de faire une vitrine et d'atteindre un public le plus large possible. On a eu effectivement cette idée de proposer une programmation complémentaire, notamment grâce à différents partenariats. La mairie du 6e arrondissement nous accueille le 6 décembre pour une conférence autour du clavecin, donc qui permettra aussi bien aux néophytes qu'aux spécialistes d'entendre de façon très intéressante le facteur Marc Ducornet parler de ce qu'est un clavecin, avec Elisabeth Joyer, claveciniste, qui sera là pour donner un peu des illustrations musicales. On aura aussi une conférence sur la musique versaillaise, notamment à l'occasion de la redécouverte du Tédéum de Colin de Blamont, qui se passera le 7 décembre à la mairie du 5e arrondissement. Et puis voilà, des concerts gratuits aussi, avec des jeunes ou avec des ensembles amateurs qu'on estime de très bonne qualité, comme l'Académie Vocale de Paris, et différents événements comme ça, qui permettent justement de viser à élargir le public de cette musique qui n'est, à mon avis, pas un public déterminé définitivement. C'est-à-dire, c'est un public. Ce répertoire baroque, c'est un répertoire qui a la particularité d'être d'une exigence artistique folle pour un artiste, mais on entend quelques notes de Bach ou quelques notes de Vivaldi, on est tout de suite capté, on est tout de suite envahi, même si on n'en a jamais entendu. Et c'est cette particularité-là aussi qui en fait un répertoire qui, dans le cadre d'un festival à Paris, peut atteindre un public beaucoup plus large que ce qu'on imagine.
Un hommage aussi à Gustave Léonard avec la projection du film de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Jean-Marie Straub sera là d'ailleurs, je crois.
Voilà, Jean-Marie Straub sera là pour parler de ce film de 1967 qui est un film qui est vraiment centré sur la musique avec Gustave Léonard qui interprète le rôle de Bach, et qui est aussi un document exceptionnel sur Gustave Léonard lui-même et sur son jeu, parce qu'il n'y a pas tellement de documents filmés sur Gustave Léonard, et donc nous sommes très contents d'avoir pu organiser cette projection un an à peu près après son dernier concert qui avait eu lieu à Paris le 12 décembre 2011.
Est-ce que vous avez à titre personnel des festivals de référence en France ou ailleurs, en Europe, sur lesquels vous avez essayé un petit peu de calquer le modèle du Festival Paris Baroque, ou des envies d'aller dans la direction proposée par certains festivals?
Le festival de référence, je dirais, c'est le festival d'Utrecht, même si on n'a pas envie de se limiter forcément, comme le festival d'Utrecht, à un répertoire généralement très sacré et avec un peu d'instrumental. On a quand même à Paris l'envie d'explorer toute la partie opéra aussi. Mais en termes, que ce soit, disons, d'éthique artistique et de positionnement vis-à-vis du public, justement, public large, tarif plutôt attractif, c'est effectivement une référence.
Oui, vous me tendez une perche. Tarif attractif, c'était aussi quelque chose d'essentiel pour vous de pouvoir ouvrir justement ce festival.
Oui, tout à fait. C'est vrai que justement, à Paris, en Ile-de-France, il y a déjà des choses qui existent, mais qui sont sont assez sélectives à ce niveau-là. On a pensé qu'il existait, qu'il y avait la place pour un nouvel événement qui vise un public plus large, sans concurrencer d'ailleurs ces événements très prestigieux, ces événements, ces salles, ces opéras extrêmement prestigieux qui existent déjà. Au contraire, de proposer quelque chose d'un peu plus différent, d'un peu plus ouvert, et qui permette de compléter la saison pour que finalement les amoureux du baroque et ceux qui peuvent y venir y trouvent leur compte.
J'imagine également essentiel par rapport à la philosophie du festival que vous venez de décrire, que tous ces concerts aient lieu dans tous les lieux en question, que ce soit les Billettes, Saint-Louis-en-Lille, etc. Et pas juste dans une seule salle.
Parce qu'il y a aussi l'idée derrière, en faisant une vitrine pour des artistes et pour un milieu, d'en faire aussi une vitrine pour le Paris baroque, qui est aussi un Paris architectural, un Paris artistique. Et d'ailleurs, on n'exclut absolument pas dans les années à venir avec, en développant des partenariats avec d'autres institutions, de pouvoir proposer d'autres événements qui permettent d'explorer, d'explorer par exemple l'art baroque qui à Paris, il y a de quoi faire et de quoi parler. Donc effectivement, mais avant tout, on recherche aussi pour chacun des programmes un contexte, y compris le contexte de salle, qui soit approprié. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un peu tendance, on va écouter des cantates de Bach dans une salle de concert qui n'est pas forcément du point de vue de l'acoustique approprié, qui est un peu sèche. Inversement, on va installer parfois des opéras dans des églises ou d'anciennes églises. On a essayé justement de toujours nous trouver un contexte approprié parce que c'est là aussi où la musique se révèle au mieux. Et puis c'est là aussi où à la fois le confort du public et celui des artistes est donc le meilleur et permet aux artistes de donner le meilleur d'eux-mêmes.
J'imagine qu'évidemment, avec votre initiative, vous avez eu face à vous des artistes qui se sont impliqués, inévitablement. Comment s'est passé justement l'échange avec ces acteurs, comme vous l'avez dit au début, qui parfois ont des difficultés de trouver de l'espace pour s'exprimer dans la capitale?
Ce sont des acteurs qui aujourd'hui sont en attente. Maintenant, il est évident qu'il fallait, en ce qui nous concerne, qu'on montre qu'on avait la même exigence en termes d'organisation et de, disons, de lignes directrices qu'ils peuvent avoir en tant que musiciens. On s'est entendu et on espère que ça va continuer. En tout cas, ce qui était important pour les artistes, et comme pour toutes les personnes impliquées dans le projet, c'était de comprendre que c'est un projet qui est là pour durer et pour construire quelque chose sur des années et des années.
La question la plus difficile qu'on posait en général à un directeur de festival, c'est s'il avait à choisir un ou deux concerts qu'il attend plus que les autres. Alors évidemment, en général, c'est un peu comme de choisir parmi ses enfants, mais est-ce qu'il y aurait, même si vous allez, j'imagine, conseiller d'aller voir, parce que la diversité est là en termes de musiciens, en termes de programmes et même de lieux, est-ce qu'il y a un ou deux concerts que vous attendez personnellement un petit peu plus que les autres?
Choisir, c'est difficile, surtout que j'aurais le luxe de pouvoir être à tous. Mais bon, à titre personnel, il y a des répertoires qui m'intéressent plus que d'autres. Oui, la musique du 17e allemande, par exemple, m'intéresse. Le concert de Jan van Elsacker et la Fenice le dimanche 2 décembre autour des Noëls allemands du 17e, je l'attends particulièrement. Mais c'est vrai que le concert de Cantus Köln qu'on n'a pas vu depuis longtemps à Paris et qui permettra aussi de les entendre en dialogue avec Benjamin Allard à la tribune de Saint-Louis-en-Lille, c'est aussi quelque chose d'attendu. Et puis, si je peux encore en citer un ou deux, il y a le concert de clôture qui est quand même quelque chose d'assez historique. C'est vrai que réentendre ce Tédéum de Colin de Blamont, alors même qu'on aurait pu entendre en ouverture ce Charpentier de la Lande, réentendre le Tédéum de Colin de Blamont qui n'a pas été rejoué depuis, les ombres font vraiment un super travail à ce niveau et le réentendre et en plus le réentendre dans cette fabuleuse église de Saint-Étienne-du-Mont, c'est quelque chose d'inattendu. Et puis il y a ce concert également consacré à Marin Marais qui aura lieu au lycée Henri IV par le trio La Canzona de Elisabeth Joyer, Simon Eric et Christine Plubeau. Le lycée Henri IV est l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève et c'est vrai que Marin Marais a composé la sonnerie sur la sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont et ce sera joué donc ce jour-là le 3 décembre, le lundi 3 décembre dans l'ancien réfectoire en fait de l'abbaye Sainte-Geneviève-du-Mont qui est aujourd'hui la chapelle du lycée Henri IV. Donc voilà, ce sont des propositions et justement c'est toujours des propositions, on essayait de trouver des lieux, de trouver une cohérence artistique et oui, ça ce sont des moments que j'attends avec impatience effectivement.
Alors même si l'édition non seulement n'est pas terminée mais a même pas commencé, est-ce que vous avez déjà dans votre tête, vous commencez déjà j'imagine à cogiter sur le chapitre 2 de cette aventure du festival?
Sur le chapitre 2, sur le chapitre 3 même, il faut se préparer, il faut anticiper. Parce que
vous attendez un peu de savoir comment va se dérouler, j'imagine, cette première édition. Vous avez déjà des envies d'orientation, soit en termes de programme, de couleur de programme ou de lieu, ou même d'artiste, tout simplement?
Pour le moment, on va rester dans une ouverture, on ne va pas resserrer autour de thèmes. On va essayer de rester fidèle à cette idée d'inviter des artistes qui correspondent à une certaine éthique du mouvement baroque. Et ce sont des artistes particulièrement que nous aimons particulièrement, qu'on invitera pour les éditions futures.
Des rêves, vous avez des envies, des rêves de musiciens?
Ah, des rêves, on en a, mais ça c'est très lointain et on ne va pas en parler, c'est mieux. Mais dès la deuxième édition, oui, on a déjà, on discute déjà de propositions artistiques extrêmement intéressantes. Alors forcément, la première édition, on attend de voir un peu, mais c'est une première édition qui est un peu un test, quoi qu'il arrive, je veux dire, l'avenir, on y croit et on travaille dessus. Comme je disais, on anticipe aussi parce que pour construire des propositions artistiques intéressantes, il faut forcément anticiper, justement, pour discuter avec des ensembles de démarches artistiques qui s'inscrivent dans le long terme, qui s'inscrivent dans leur travail de long terme. On a préparé la programmation de cette année jusqu'à plus d'un an en avance. Donc effectivement, on est déjà dans les deux années qui viennent. Oui.
Bien. Ben donc on pourra déguster tout ça du 23 novembre au 9 décembre, donc Saint-Sulpice, au Billette, Saint-Louis-en-Lille, Saint-Étienne-du-Mont, la chapelle du lycée Henri IV et dans d'autres beaux lieux. Merci Julien Lemoff.
Merci Marie-Lisa.
Yeah.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.